Chers amis, bonjour, bonjour à tous, bonsoir, là où vous nous écoutez. Notre conférence d'aujourd'hui a pour sujet que l'on peut appeler cosmique, mais qui est plutôt de rapport avec notre développement intérieur. Avec notre façon de penser, notre façon de ressentir. Nous allons parler en fait de l'influence énergétique des anneaux d'un soleil appelé Alcyone. Il serait très intéressant de réfléchir sur ce qu'on déclare les cultures anciennes comme la culture aztèque, la culture égyptienne, la culture inca, hindoue, la culture tibétaine ou la culture hébraïque. Toutes ces anciennes cultures possédaient une connaissance transcendantale. Même avec toutes les avancées de la science d'aujourd'hui, il y a encore beaucoup de choses qui ne peuvent être comprises au fur et à mesure des découvertes scientifiques qui sont faites. Nous redécouvrons que dans le passé, il y a déjà des milliards d'années, certaines de ces découvertes étaient déjà connues dans toutes ces cultures de l'Antiquité. Nous sommes à peine en train de découvrir des choses qui étaient déjà connues dans le passé. C'est le cas précisément d'une constellation très importante dans laquelle se trouve le soleil Alcyone. Nous nous référons à la constellation des Pléiades. Les Pléiades sont une constellation que nous connaissons et qui est allégorisée dans les fameux calendriers aztèques, les pierres du soleil. Deux serpents entourent ces calendriers aztèques ou pierres du soleil et les deux bouches de ces serpents sont ouvertes. Nous voyons également sept étoiles orner sept têtes de serpents. Ces sept étoiles étaient appelées les cabrillas. Et les aztèques avaient beaucoup de respect pour elles. C'est la même constellation de Pléiades. Chez les Aztèques, il y avait une prophétie qui parlait de la fin de la race. Ils savaient que la fin de la race devait se terminer à la fin d'un cycle aztèque, et ce cycle aztèque durait 52 ans. Lorsque se terminait ce cycle de 52 ans, ils attendaient en restant sereins, en méditation, en étant en pleine réflexion, ils attendaient la fin de ce cycle, la fin de leur race, tranquillement. Ils étaient attendaient avec beaucoup de vénération durant la nuit que passent les Cabrillas ou les Pléiades. S'ils passent vivant ce moment, cela voulait dire que le Dieu leur avait accordé de nouveau 52 ans de vie, un nouvel cycle, et comme ils avaient dans l'attente éteint tout le feu, ils les rallumaient donc dans la cérémonie du feu nouveau. Très importante pour ces cultures. Toutes ces traditions sont vraiment très intéressantes et sont très ésotériques. Nous voyons par là qu'ils prêtaient beaucoup d'attention à la constellation des Pléiades. Vous savez que les Mayas n'étaient pas d'ignorants comme nous pouvons le penser de nos jours. La constellation des Pléiades est très petite et si la grande ours et les petites ours sont beaucoup plus visibles qu'elles, la constellation des Pléiades était beaucoup plus importante pour ces cultures. Plus intéressante pour tous ces peuples de l'Antiquité, ainsi que chez les Grecs aussi, bien sûr. Elle est nommée d'ailleurs également dans la Bible, dans certains versets. Il existe une très belle peinture représentant cet ensemble d'étoiles, les Pléiades. C'est très intéressant. Les cultures dans l'Antiquité portaient un grand intérêt à cette constellation. Elle est vraiment petite. Elle se trouve très loin, et selon les études scientifiques, elle se trouve vraiment très très éloignée de nous. Mais ces Pléiades, qu'ont-elles à voir avec nous dans la Terre? Bien, dans la Renault, nous affirmons, même si aucun appareil scientifique ne peut le prouver, que nous faisons partie de ces Pléiades. De nombreux soleils tournent autour d'un centre gravitationnel, et ces groupes d'étoiles dans cette constellation sont toujours réunis ensemble. Et pourquoi sont-elles toujours ensemble? Parce qu'elles sont attirées par un centre magnétique. La constellation de Pléiades a un centre gravitationnel qui maintient toutes ces étoiles ou ces soleils ensemble. Et ce grand soleil s'appelle précisément Alcyone. Sept soleils tournent autour de ce soleil Alcyone. Pardon. Et le septième soleil est notre soleil, Anus. Notre soleil Anus est appelé Ors. C'est ce soleil qui nous illumine, nous rachève, ce qui veut dire que nous sommes des habitants de la constellation des Pléiades aussi. C'est pour cette raison que toutes ces anciennes cultures portaient un si grand intérêt à ces constellations, parce que nous sommes sur une planète qui tourne autour d'Alcyone, notre soleil or, tourne autour de ses grands soleils. Bien sûr que ceci ne pourra pas être accepté par notre science avant plusieurs dizaines d'années. Il suffira qu'un astronome réussisse à faire des grands calculs et détermine que nous sommes effectivement très influencés par cette constellation, et il faudra, peut-être, d'autres dizaines d'années pour que la science accepte et prouve que nous faisons bien partie de cette constellation, que nous sommes le septième soleil qui tourne autour de ces grands soleils Alcyone. Il y a donc sept soleils, d'accord? Chacun avec son ensemble de planètes, son système solaire propre, comme en famille. Sept systèmes solaires qui tournent autour de ce soleil Alcyone. Ce soleil est vraiment énorme, démesuré. Sept soleils tournent autour de lui. Nous les voyons sur cette carte sidérale, sur cette image, et nous tournons aussi autour de sept soleils centrales Alcyone. Le tour que nous faisons autour de lui dure 25 968 années terrestres. Et ce qui est très intéressant, c'est que cela coïncide avec le parcours que nous faisons sur la ceinture zodiacale, traversant au fur et à mesure les 12 constellations du zodiaque et y subissant leur influence magnétique. C'est-à-dire que pendant ces 25 968 années terrestres sont nécessaires pour faire les complètes tours du soleil Alcyone et aussi, au même temps, parcourir sous la vibration de ces 12 constellations zodiacales. La période d'une constellation se trouve sous l'influence d'un signe zodiacal. D'un seul signe zodiacal est de 2064 années terrestres, plus ou moins. Cette période s'appelait un ère. L'ère est donc la période d'influence dans laquelle est soumise une constellation dans un signe zodiacal autour du soleil Alcyone. Et tout notre système solaire est sous cette vibration, sous cette influence. Bien. Depuis le 4 février 1962, entre 2 et 3 heures de l'après-midi, nous sommes entrés dans l'ère du berceau. D'accord? Aujourd'hui, nous sommes sous l'influence du berceau. L'ère qui a précédé était celle du poisson et son initiateur, parce que chaque ère a un initiateur. Bien. L'initiateur de l'ère du poisson fut Jean le Baptiste. Et le maître Jésus était bien plus qu'un initiateur, car il est le maître des maîtres, d'accord? Mais il a accompli sa mission dans l'ère du poisson. C'est pour cette raison que le christianisme a comme symbole les poissons. En plus de tous ces principes et ces apostolats, puisqu'ils se trouvaient dans l'ère du poisson, à partir donc du 4 février 1972, entre 2 et 3 heures de l'après-midi, il y eut un concile cosmique. Toutes les planètes du système solaire étaient alignées sous la constellation du Verseau pour commencer cette nouvelle ère. Dans l'Agnos, nous parlions depuis une dizaine d'années déjà. Nous avions dit depuis longtemps qu'une nouvelle ère allait arriver. Tous les étudiants du mouvement gnostique international ne furent donc pas surpris par cet événement. Depuis cette date, nous sommes entrés donc dans l'ère du berceau. Nous resterons dans cette ère du berceau durant 2164 années. Et comme toujours, dans cette ère du berceau, ainsi que dans l'ère du lion, nous croiserons à un moment donné et nous entrerons dans les anneaux énergétiques du soleil Alcyone. Ce soleil Alcyone a des anneaux énergétiques énormes, démesurés, immensément grands, mais énergétiques. Et à chaque fois que nous serons dans l'ère du berceau ou du lion, nous entrons dans ce type d'anneaux énergétiques. Nous le traversons. Tout cela appartient à la mécanique terrestre et n'est-ce pas un événement insolite? C'est ce que nous faisons sans arrêt. Et nous sommes sur le point d'entrer dans ces anneaux d'Alcyone encore une fois. Quand cela va-t-il se produire? Nous ne savons pas le moment précis. Ce que nous savons seulement, c'est que cela arrivera lorsque nous nous trouvons dans l'air de berceau. Dans l'air de berceau, nous serons entrés dans cette influence énergétique. Quand est-ce que cela va arriver? Personne ne le sait. Personne ne le sait. Ces anneaux sont immensément grands. Ils s'étendent à de très nombreuses années-lumière. Une année-lumière est la distance que parcourt la lumière durant une année dans le cosmos. On ne peut pas mesurer cela en kilomètres. C'est encore moins de mètres. Il n'est pas simple. Pourquoi? Parce que les distances sont gigantesques. La lumière parcourt 300 000 km à en une seconde. En une minute, ce serait 300 000 multiplié par 60, là, 18 millions de kilomètres. Dans une minute. Et multiplié par 60, nous aurions une heure lumière. Et multiplié par 24, nous aurions un jour lumière seulement. Et ensuite, cette distance multipliée par 365 jours nous donnerait une année lumière, ce qui représente plus de 9 billions de kilomètres. On ne peut même pas imaginer cette distance. On ne peut pas imaginer ce que sont 9 billions, non pas de millions, mais de billions de kilomètres. Ces anneaux s'étendent donc à plusieurs années-lumière et nous sommes sur la pointe d'entrer dans ces anneaux énergétiques du Soleil Alcyone. C'est sur le point de se produire. Nous pouvons y entrer à n'importe quel moment. Un scientifique allemand, Paul Otto Hess, a écrit dans un livre intitulé « Les dernières jours » ceci. Si, au moment d'entrer dans les anneaux d'Alcyone, la Terre entre en première, étant donné que la Terre tourne autour du Soleil, et si c'est elle qui est plus orientée vers les anneaux que notre Soleil, il va se produire un choc énergétique entre les vibrations énergétiques d'Alcyone et les molécules terrestres. Cette rencontre des deux énergies, la terrestre et celle d'Alcyone, des anneaux énergétiques d'Alcyone, va faire comme si tout s'illuminait, tout s'éclairait, ce ne sera pas un incendie à premièrement parler, mais lorsque l'énergie très vivifiante des anneaux énergétiques du Soleil d'Alcyone entrera en contact avec les molécules de la Terre, on croira que tout s'enflammait. Il ne va rien se passer. Les étudiants gnostiques qui savent tout cela ne seront pas du tout étonnés. Ils y seront, et puis voilà, ils diront, nous sommes arrivés. C'est comme quand nous sommes entrés dans l'air du berceau. Nous y sommes entrés. Voilà, c'est tout. Allons-y. Nous sommes préparés à ce type d'événement. Il ne faut pas s'affoler ou se horrifier. Il ne va rien se passer. C'est simplement l'énergie vivifiante des anneaux énergétiques du Soleil Alcyone qui va entrer en contact avec les molécules de la Terre. Étonnante? Oui. Mais c'est tout. Mais il se pourrait aussi que ce soit notre Soleil qui entre en première dans ces anneaux énergétiques d'Alcyone. Dans ce cas, le temps que l'énergie de notre Soleil s'accommode avec les énergies de ces anneaux, il va s'assombrir, il va s'obscurcir durant plus ou moins 110 heures d'affilée. Si notre Soleil entre première sous l'influence de ces anneaux d'Alcyone, tout ne va pas être complètement obscur, non. Cela va ressembler à une pluie d'étoiles incessantes durant 110 heures. Que ce soit la Terre ou le Soleil qui entre en première dans ces anneaux énergétiques du Soleil d'Alcyone, de toutes les façons, cela ne va pas tarder à se produire. Nous y entrerons et nous y resterons durant 12 000 ans, plus ou moins. en 2164. Oui, nous allons rester dans ces anneaux d'Alcyone durant plus de 2000 ans. Lorsque nous en sortirons, nous ferons un voyage sidéral de 10 000 ans avant d'arriver une autre fois dans ces anneaux, quand nous entrerons dans l'ère d'Union. Nous resterons encore 2000 ans dans ces anneaux énergétiques d'Alcyone, puis nous y entrerons encore une fois 10 000 ans hors de ces anneaux, et nous rentrerons à nouveau lorsque nous retournerons sous l'influence de l'air du Verseau. Alors, nous sommes hors de cette influence pendant 10 000 ans, nous entrons avec l'air du Verseau pendant 2000 ans, hors 10 000 ans, et durant l'air du Lion, 2000 ans à nouveau sous l'influence de ces anneaux del ciel. D'accord? C'est clair? J'espère que oui. Nous ferons un tour complet autour du soleil d'Alcyone, comme nous l'avons dit, en 25 1968 années terrestres. 2000 ans pour croisière, 10 000 ans sans être dans ces anneaux, et nous répétons cela, parce que tout cela appartient à la dynamique cosmique. Que ce soit la Terre ou le Soleil qui entre en première dans ces anneaux, ce sera le phénomène qui se produira, qui changera. Si la Terre entre en première, il va y avoir plein d'illumination partout, et si c'est le Soleil, nous aurons environ 110 heures d'obscurité. C'est ce que l'on a à peu près calculé. Évidemment, beaucoup d'informations erronées circulent dans le monde entier. Elles déclarent qu'il faut faire ceci ou cela, qu'il faut allumer des bougies, faire telle ou telle chose. Mais toutes ces informations ne sont que des superstitions tirées de connaissances transcendantales que l'on dégénérait peu à peu et qui est en train de se perdre. On ajoute et on retire beaucoup de choses à cette connaissance transcendantale, ce qui fait qu'à la fin, naissent beaucoup de superstitions. C'est un phénomène de type cosmique qui est prêt à se produire et nous y resterons pendant 2000 ans. Les anneaux d'Alcyone ressemblent beaucoup à aux anneaux de Saturne. Mais les anneaux de Saturne sont faits de gaz, de poussière cosmique et d'autres composés. Et pour ceux qui peuvent observer cette planète Saturne, peuvent se rendre compte combien elle est magnifique. Mais les anneaux d'Alcyone ne sont pas faits de matière. Ils ne sont pas physiques, ils sont énergétiques. D'accord? Les anneaux d'Alcyone sont énergétiques. Et cette énergie est le résultat de quoi? De la division de l'électron. Ici, sur Terre, les scientifiques ont réussi à diviser les noyaux de l'atome qui produit l'énergie nucléaire. Cette énergie nucléaire, lorsqu'il est divise en noyaux atomiques, est incroyable, énorme. Cette division libère une énergie terrible, incroyable, je la répète. Si deux noyaux d'hydrogène fusionnent, cela produit une énorme quantité d'énergie démesurée, puisque dans l'atome se trouve une énergie insoupçonné. Ce que les scientifiques n'ont pas encore réussi à faire, c'est diviser un électron qui est plus petit que le noyau de l'atome. Et c'est une très bonne chose, parce que cette division de l'atome a permis de construire des bombes atomiques, des expériences nucléaires, des bombes d'hydrogène. Tout cela parce que nous avons un psyché complètement dégénéré. Parce que nous sommes ambitieux, parce que nous avons peur, nous faisons des guerres, nous tuons des gens, voilà ce que nous faisons. Oui, c'est vraiment une très bonne chose qu'il n'ait pas pu diviser l'électron, parce qu'alors nous serions capables de faire des catastrophes à des niveaux incroyables, et espérons qu'ils n'arriveront jamais à faire cela. Dans les anneaux énergétiques du soleil d'Alcyone, les électrons se divisent d'une certaine façon. Lorsque les électrons se divisent, il se produit une énergie démesurée, énorme. C'est une énergie qui s'étend à de nombreuses années-lumière et nous sommes sur le point d'entrer dans cette énergie énorme d'Alcyone. Les atomes sont très intéressants. Albert Einstein nous a dit que l'énergie était égale à la masse multipliée par la vitesse de la lumière au carré. Cette formule a montré en fait ce qu'affirmaient les écoles spirituelles, les écoles mystiques, qui déclarent que la matière n'est que de l'énergie condensée, esprit aussi. Einstein nous dit que l'énergie est égale à la masse, c'est-à-dire la matière. Et si nous l'amenons à la vitesse de la lumière au carré, alors elle est convertie en énergie. Vous vous rendez compte de ce qu'il dit? Un atome est un exposant d'énergie. Il n'est pas de tout ce que l'on croit. Il n'est pas simplement physique. Tout est un trio de matière, d'énergie et de conscience. La matière est déjà calculée par nos physiciens. La matière atomique, elle a un poids d'atomique. Et nous avons l'énergie que nous avons découverte. Et si nous divisons les noyaux de l'atome, nous obtenons une énergie très grande, une énergie terrible, puissante. La science ne sait pas que l'atome est aussi conscient. Ce n'est pas quelque chose de mort, d'inerte. C'est quelque chose qui possède une âme. Un atome a une âme. Un atome a un principe animique. Et animique signifie âme. Même les animaux ont un principe animé. Le mot animal vient de âme. Cet anima, c'est l'âme. Les atomes ont leur principe animique. Et ce principe animique de l'atome est appelé dans la culture hébraïque Hashim. Et cette énergie résultante de la division de l'électron qui se trouve dans les anneaux d'Alcyone est une énergie que certains auteurs ont appelée énergie manachique. L'énergie qui s'obtient de la division de l'électron. Pourquoi l'appellent-ils ainsi? C'est un terme sanskrit, manachique. Le sanskrit est la langue sacrée hindoue. Ce terme sanskrit définit les différents niveaux qui existent dans l'univers avec des noms orientaux, bien sûr, des noms sanskrits. Ils appelaient le monde physique Stula Sarida. C'est d'ailleurs ainsi. Ainsi que les grands initiés, Elena Petronila Blavatsky, auteur du livre Isis dévoilé, de la doctrine secrète aussi, et de la voie du silence, par exemple, appelait le monde tridimensionnel et le corps physique, Stula Sarira. Ils appelaient le monde vital, ou, monde, ou aussi le corps vital, Lingam Sarira. Et ils appellent le monde astral, Kamas. Parce que Kamas veut dire désir. Et le corps astral est le corps, notre corps de désir. Le monde mental est appelé les manas inférieurs. Le monde causal et le corps causal est appelé les manas supérieurs. Il s'appelle le monde de l'âme, la bouddhi, et le monde de l'être, Atman. D'ailleurs, il est possible que nous connaissons ces noms parce qu'on appelait Gandhi les Mahatma. Maha voulait dire Ram. En sanskrit, et Atman ou Atman signifiant être. Alors, Mahatma signifie donc le grand être. L'Atman est l'être, l'esprit de l'être humain. Atman, pour la culture de l'hindou. C'est de là que vient le mot manasique. Parce que si un terrien veut découvrir la formule qui diviserait l'électron, et espérons que cela n'arrive jamais, nous serions capables de construire des bombes extrêmement puissantes. Ce seraient des bombes manachiques. Pas seulement des bombes atomiques, mais des bombes Manasik. On pourrait les appeler ainsi, car ces bombes, hélas, n'affecteraient pas seulement le monde physique, mais le monde vital, le monde astral, le monde mental, et pourraient même endommager le monde causal, le mana supérieur, manasik, manas. C'est pour cela qu'on l'appelle énergie manasik. Cette énergie affecte le monde physique, vital, astral, mental et causal. C'est une énergie très puissante. C'est pour cette raison que nous ne savons pas que ce qu'il va se passer lorsque nous entrerons dans cette énergie des annulations. Répétons-le. Chaque atome est un trio de matière, d'énergie et de conscience. Le corps de l'atome, c'est la matière. L'âme de l'atome, c'est la conscience. Et l'esprit de l'atome, c'est l'énergie. Nous avons dit que les Hébreux appelaient Hashin le principe animique des atomes. C'est parce que un atome a son intelligence, c'est un système solaire en miniature. Son noyau serait le Soleil et les électrons seraient les planètes qui tournent autour de ce noyau atomique. Dans cela, il n'y a pas de hasard, il n'y a d'intelligence. Une intelligence animique, une âme ignée, comme l'appelaient les Hébreux antiques, les Hashin. C'est pour cela que les grands maîtres comme Bouddha, Quetzalcoatl, Hermès, Moïse ou Jésus-Christ pouvaient accomplir des grands prodiges. Pourquoi? Parce qu'ils se dominaient eux-mêmes. Ils dominaient leurs propres passions. Ils dominaient chaque partie d'eux-mêmes. Et en faisant cela, ils avaient alors la capacité d'influencer les Hashin, influencer les âmes ignées des atomes. Gouverner les âmes ignées des atomes, seuls peuvent le faire des grands maîtres. Et seulement des grands maîtres comme Moïse sont capables d'ouvrir l'océan, la mer Rouge. Tout cela est possible parce qu'ils dominaient les Hashin, les âmes ignées des atomes de la nature. Qui se domine soi-même peut dominer la nature. Mais nous ne savons même pas tous les pouvoirs que contient un panier de sable. Nous ne connaissons rien de l'univers. Nous prétendons connaître la matière et nous en avons des définitions très limitées, très superficielles. Nous disons par exemple, la matière c'est tout ce qui occupe un lieu dans l'espace. C'est comme si on disait que le cœur était tous les corps physiques, que les foies étaient tous les corps physiques. La matière, c'est tout ce qui occupe un lieu dans l'espace, nous disons. Tout cela, nous laisse pas toi. X est pareil à l'Y et Y est pareil à l'X. Nous ne connaissons rien de la matière. Et nous ne savons encore moins quand nous entrerons dans l'Es anneau énergétique d'Alcyon. Cette énergie va affecter ce que nous connaissons comme matière, ce que nous avons défini comme étant matière. Cette énergie va la transformer. L'énergie d'Alcyon va transformer beaucoup de choses dans la nature autour de nous. Lorsque nous entrerons dans l'énergie d'Alcyon, la rotation de la Terre, qui a son propre axe, va changer avec cette énergie. Cette rotation sera un peu plus lente et cela va provoquer très certainement des changements. En tournant plus lentement, le jour va être un peu plus long, mais elle va s'éloigner un peu aussi du soleil. Ce ne sera pas important, mais ce changement va être suffisant pour provoquer, écoutez bien, une nouvelle glaciation. Le temps qu'elle s'accommode à cette énergie. La Terre a supporté plusieurs glaciations déjà, et nous sommes sur le point d'en avoir une nouvelle, parce que lorsque nous entrerons dans les annulations, la rotation de la Terre va être plus lente. Il y aura certainement des grands froids et ne sera peut-être pas possible d'habituer quelle heure qu'à l'équateur. Ces changements vont être terribles pour toute l'humanité, chers amis. nous sommes en train de vivre déjà des changements terribles pour nous tous comme humanité. Il est certain que cette énergie très vivifiante d'Alcyon est capable d'influencer le monde physique, vital, astral, mental et causal. C'est pour cela qu'elle est appelée énergie manasique. C'est une énergie du manas supérieur, qui est le monde causal ou la dimension causale pour la culture hindoue. Et il est donc logique qu'elle changera la composition de la matière. Les molécules du charbon, du coton par exemple, ne vont plus avoir la même composition. Elles vont changer. En fait, tout ce que nous avons étudié, appris durant de longues années, changera. Tout va changer. Nous allons devoir tout recommencer encore une fois. Tout réapprendre. Les formules de la physique vont changer. La chimie aussi aura des formules différentes. La médecine va changer, car elle n'est pas basée sur les principes animiques de la nature, comme elle devrait l'être. Les formules médicales des Égyptiens, des Mayas, des Aztèques durant leur âge d'or ne changeront jamais, parce qu'elles sont basées sur les principes animiques des plantes, c'est-à-dire sur les âmes des plantes, et non sur leur partie physique. Non, ces formules ne changeront jamais. Mais notre médecine à nous, qui ne s'occupe que de la partie physique, malheureusement, elle va bien sûr complètement changer. La physique subira des transformations. La chimie, la biologie, tout va changer. Et nous resterons dans cette énergie pendant 2000 ans. Rappelez-vous, durant ce temps, l'énergie vivifiante du soleil Alcyon va faire que la matière sera phosphorescente. Nous employons ce terme car il n'existait pas encore pour définir ce phénomène. La matière va émettre une sorte de radiation lumineuse. Toutes les pierres, toutes les roches vont être lumineuses et même les cavernes les plus profondes seront phosphorescentes. On n'aura plus besoin de lampes ou de la lumière du soleil pour les voir. On peut dire que nous aurons un jour qui va durer 2000 ans. Bien sûr que nous saurons quand le sommeil tournera. Nous aurons des nuits spéciales, des jours spéciaux. Mais nous n'aurons plus besoin de la lumière du jour pour voir. Et cela durant 2000 ans. Le temps que nous passions, c'est sa nœud énergétique du soleil Alcyon. Est-ce que vous vous rendez compte de ce qui est près d'arriver, les changements qui sont à la porte, et cela va nous affecter aussi, et nous affecte à chaque fois que nous entrons dans les anneaux électroniques ou énergétiques du soleil Alcyon, ou les anneaux manasiques. Il faut donc se tenir prêt, être préparé pour cela. De nouvelles espèces apparaîtront, évidemment. Pour l'instant, et en ce moment, notre air ambiant qui se trouve dans la nature n'est pas propice pour de nouvelles espèces. Mais les germes sont là, latentes, dans les profondeurs des forêts. C'est très facile à comprendre. Voyons un exemple. Imaginons que nous avons un morceau de terrain sec, aride. C'est de la terre sèche, de la poussière, d'accord? Il n'y a rien dessus, ni rien de dense. Mais si nous arrosons tous les jours ces petits lopins de terre, toutes secs, nous aurons très vite des petites gouttes d'herbe qui apparaîtront, des brins d'herbe, et puis ensuite nous y verrons quelques petits animaux. D'où viennent-ils? D'où viennent ces brins d'herbe et ces petits animaux? Parce qu'il n'y avait vraiment rien avant. La terre était complètement sèche et poussiéreuse. Mais elle contenait des germes latentes. Ces germes étant dans la terre et dans l'eau réunissent en fait que sont apparus ces petits brins d'herbe et ces petits animaux. Ne vous étonnez pas donc, chers amis, qu'avec l'énergie d'Alcyon s'établisse un air ambiant favorable pour faire apparaître des espèces inconnues. Apparaîtront des espèces nouvelles d'animaux, des espèces de beaucoup de végétaux complètement nouveaux et inconnus, et même de nouveaux minéraux. L'énergie vivifiante des anneaux d'Alcyon changera les milieux ambiants et fera que toutes ces nouvelles espèces apparaissent. Il a existé dans le passé des choses que nous n'avons pas connues. Par exemple, en Atlantide existe un minéral plus précieux que l'or, qui s'appelait orichalcum. Nous ne l'avons jamais connu. Et si de nouvelles espèces d'animaux, de végétaux et de minéraux apparaîtront, il est évident que certaines espèces qui existent aujourd'hui ne vont plus pouvoir vivre. Elles n'auront plus un milieu ambiant favorable pour vivre. L'air ambiant ne sera plus favorable pour beaucoup d'espèces animales, végétales ou minérales. Certains animaux vont disparaître. Bon, si nous ne les exterminons pas avant, évidemment. Nous sommes en train de détruire l'habitat de beaucoup d'animaux dans le monde. Nous les faisons déjà disparaître. Le corps humain est capable de vibrer dans cette énergie. Il peut vibrer avec l'énergie d'Alcyon et sans son énergie aussi. Le corps peut vibrer avec les deux. Par contre, avec autant de dégénérescence, avec tous les vices que nous possédons en nous-mêmes, avec les très mauvaises habitudes de vie que nous avons, il est probable que beaucoup d'entre nous ne pourront pas supporter l'énergie d'Alcyon. Il est possible évidemment de la supporter, parce que l'être humain peut la supporter. Mais nous avons tellement de vices en nous, est-ce que vous croyez qu'en étant alcoolique, parce que nous vivons à toutes les occasions, nous pourrons supporter cette grande énergie d'Alcyon? L'alcool n'est pas naturel pour notre organisme. Il y a bien sûr des médicaments qui contiennent un peu d'alcool. Oui, d'accord. Il y a de la nourriture qui contient un peu d'alcool. Bien. Ce n'est pas un problème. C'est une quantité d'alcool minime. Ce n'est pas grave du tout. Il y a ici au Mexique des sauces qui se font avec de la boisson fermentée de l'agave. Ce n'est pas un problème. Mais lorsque nous abusons de l'alcool, le corps le rejette. C'est indéniable. Et il ne faut pas justifier l'abus de l'alcool. Voyez, lorsque l'on boit pour la première fois, notre corps le rejette violemment parce que l'alcool est une entité démoniaque qui prend le pouvoir sur nous. Le corps veut éliminer tout ce qui lui fait du mal. C'est pour cela que l'on se sent vraiment mal quand nous vivons trop. Nous vomissons, le corps expulse cette substance maligne pour lui, le corps fait tout son possible pour rejeter cette substance, par la sueur, par les vomissements. Ce sont beaucoup de conséquences pour le corps physique. Et ensuite, si nous persévérons, si nous continuons, la volonté maligne de l'alcool s'impose au corps et le corps devient dépendant de l'alcool. Ce n'est pas normal. Les personnes pensent que justifiant leur prise de l'alcool, parce que nous justifions toujours tous nos vices, ils pensent qu'ils vont supporter l'énergie d'Alcyon. De nos jours, on justifie aussi les drogues. 5, 1 000, 2 millions d'êtres humains justifient les drogues. Le cannabis est nécessaire pour guérir certaines maladies. C'est bon. Personne ne dit le contraire. Mais que l'on prenne du cannabis pour sortir en astral, là, c'est une folie. Que l'on prenne du cannabis parce que l'on pense qu'il est nécessaire pour bien écouter de la musique classique, c'est une pure folie également. Et on l'utilise aussi pour méditer. C'est une folie. C'est l'ignorance. Toutes ces justifications absurdes sont même rejetées par la science. Il y a des pays qui ne veulent absolument pas légaliser les drogues parce que regardez ce qu'il se passe lorsque l'on a légalisé l'alcool. Combien de fois, combien de viols ont été commis sous l'emprise de l'alcool? Combien d'accidents de la route se sont produits à cause de l'alcool? Combien de violences faites aux femmes à cause de l'alcool? Combien de femmes doivent-elles souffrir parce que les hommes deviennent des brutes à cause de l'alcool? Cela n'est-il pas suffisant pour que l'on veuille maintenant justifièrent et légalisèrent les drogues en plus. Si l'alcool déjà nous donne beaucoup de problèmes, pourquoi est-ce que nous voulons faire toutes les choses devenir pires? Si vous voulez justifier et légaliser les drogues, faites-les. Mais le mal que nous faisons à notre organisme est terrible. Et il est certain qu'avec autant de drogues que nous utilisons, nous ne supporterons jamais les énergies des anneaux d'Alcyone. Nous voulons peindre, faire du sport. Nous le faisons sous l'influence de la drogue. Et ce qui est absurde, le comble de la perdition. Nous voulons faire de ce tout ésotérique avec de la drogue. Et ce qui est pire encore, c'est qu'avec du peyote, du cannabis, des plantes hallucinogènes ou des champignons hallucinogènes, nous pensons que nous pouvons nous initier. C'est de la pure folie furieuse. Ce n'est vraiment pas sérieux. Et est-ce que nous pourrons supporter de cette manière les anneaux d'Alcyone? Non, bien sûr que non. Et beaucoup d'êtres humains mourront. Non pas parce que nous ne pourrons pas supporter cette énergie, mais parce que nos vies sont en train de tuer toutes les défenses naturelles que possède notre organisme. Et puis, il n'y a pas que l'alcool et les drogues, il y a aussi les problèmes de nos émotions. Les émotions aussi abîment notre corps. Lorsque l'on se met très souvent en colère, quand on se fait beaucoup de soucis, on se rend malade, on tombe malade. Bien sûr que oui, une émotion négative de colère fait que le corps comprend que l'on est en danger. Oui, le signal qui donne cette émotion du corps est danger, danger. Alors, de ce signal, le corps se prépare, il se tient prêt. Il se crée des hormones nécessaires pour que le corps soit prêt à courir pour se soulever, à se défendre. Il se prépare pour cet événement. Bon, que l'on se mette une fois en danger, dans une année, ou tous les 5 ans, le corps résiste bien. Bien, il est préparé. Dans les 5 passes, entre un grand nombre d'hormones prêtes pour que nous puissions courir, par exemple. Parce que nous sommes en danger, ou sauter, ou supporter quelque chose de très grave. Nous savons les hormones pour nous défendre. Mais à chaque fois que nous nous mettons en colère, que nous stressons, que nous nous faisons beaucoup de soucis, le corps se prépare. Chaque fois que nous ressentons de la colère, de l'envie, de la luxure, le corps se prépare. Il y a cette réaction. Et bien sûr que cela lui fait du mal. Arrivent alors les infections, les maladies, les tachycardies, les maladies des reins, du foie, de l'estomac, du cerveau et du corps, bien sûr. Les émotions nous affectent. Et combien d'émotions négatives sont venues? Beaucoup, vraiment beaucoup. Tous les jours, tous les temps. Et puis, nous n'avons même plus de Pâques pour aller nous promener. Il n'y a que du béton, du ciment, beaucoup de maisons très moches. L'aide, on dirait des caches à lapins. Il n'y a plus d'arbres, il n'y a plus de rivières ou limpides et transparentes. Et nous n'entendons plus leurs jolies chants sur les pierres. Il n'y a plus de oiseaux. Nous sommes en train de mettre fin à tout cela. Comment voulez-vous que dans ces conditions nous puissions y survivre? Nous sommes tous énormément stressés. Nous sommes toujours en colère. Nous n'avons aucun contrôle sur nos émotions. Tout cela affecte notre corps physique et le pire, c'est que toutes ces émotions sont comme des virus, des bactéries. Nous sommes quand même bien avancés dans ces domaines, mais si nous unissons les microscopes électroniques avec les appareils capables de voir l'aura, il paraît que les scientifiques le sont déjà. Nous verrions dans les tumeurs cancéreuses que c'est un virus qui est responsable du cancer. Mais c'est un virus qui se développe dans la 4e verticale, dans la 4e dimension. les scientifiques découvriront certainement un jour quand ils se serviront de leur puissant microscope avec des appareils comme la caméra Kirlian qu'il existe des virus et des bactéries, non pas seulement dans les corps humains physiques, mais aussi dans la quatrième verticale et même dans la cinquième dimension. Dans un longtemps passé, on appelait ces virus et ces bactéries de la quatrième dimension dragon, larve, incube, succube, fantôme, ainsi que beaucoup d'autres noms. L'un de ces virus existant dans la quatrième dimension est celui qui cause le cancer. Mais il se développe seulement chez les individus qui, dans leur vie passée, ont, ou dans celles-ci, qui ont abusé de leur énergie sexuelle ou qui abusent de leur énergie créatrice. Ce virus est appelé chancre, ici dans l'agnos. Il se développe dans les corps vitaux, dans l'aura ou le lingam sarira. Il abîme les corps vitaux en désordonnant les cellules et ce désordre est la cause du cancer dans le corps physique. Pour réussir à soigner et guérir le cancer, il va falloir découvrir ces virus de la quatrième dimension. Appelons-les les micro-organismes ultra-sensibles pour que tout le monde soit content. Parce que si on les appelait comme les fessés Paracelse, les dragons, des incubes ou des succubes, personne ne les accepterait. Appelons-les alors des micro-organismes ultra-sensibles. Comme ça, tout le monde est content. Mais il y a aussi des émotions négatives. Elles sont identiques aux bactéries et virus. Les émotions négatives sont très contagieuses. Bougez, nous rentrons chez nous de mauvaise humeur. Nous avons beaucoup d'émotions négatives et notre conjoint se met en colère à cause de cela. Ensuite, on s'énerve ou énerve ses enfants. Et toute la famille s'énerve et a plein d'émotions négatives. Les émotions négatives sont très contagieuses. Par exemple, un enfant qui n'a fait ses devoirs à l'école, qui n'a pas étudié et qui passe son temps à jouer sur Internet ou sur son téléphone, hypnotisé par tout ce qu'il voit sur les réseaux sociaux. Il ne fait rien à l'école et il rate complètement ses examens et n'est pas bon du tout dans toutes ses matières. Son professeur, avec raison, lui met des mauvaises notes et le punit car il ne fait rien et n'a aucun résultat à l'école. Cet élève se met en colère, il est très énervé et rentre chez lui très en colère. Comme les émotions négatives sont comme des virus qui se propagent et arrivent chez lui en se plaignant de son professeur, en déclarant que son professeur ne l'aime pas, qu'il est contre lui, etc. Sa mère et son père se mettent en colère à leur tour également. Finalement, toute la famille est en colère contre le professeur. Voyez comment ces émotions négatives se sont propagées comme des virus. Et tout cela nous fait du mal. Cela affecte le cœur de la mère, les reins du père, peut-être les foies de la sœur, l'estomac, le système digestif. Pourquoi? Parce qu'ils somatisent les problèmes. Somatiser se rapporte au corps physique. Ces émotions somatisent, affectent le corps dans ces endroits, dans ces organes les plus fragiles. On peut dire que le fils est coupable de la maladie de sa mère qui se déclare 2 ans plus tard à cause de cette grande colère que nous lui avons provoquée, qui s'est propagée en elle. Imaginez maintenant un commentateur de radio ou de télévision qui serait très négatif, rempli d'émotions négatives. Eh bien, il contaminerait un grand nombre de personnes. Ou bien un politique ou un président qui contamine négativement toute une foule. C'est pour cette raison que nous devons faire attention parce que les émotions négatives contaminent horriblement notre corps, lui font beaucoup de mal et produisent pas mal de dégâts. Vous pensez vraiment que dans ces conditions, en étant dans cet état, nous allons bien résister aux énergies des anneaux d'Alcyone? Il faut nous préparer. Non pas en allumant des petites bougies Vénice ou en faisant d'autres choses inutiles comme les suggèrent les pseudo-sotériques ou pseudo-cultistes bon marché qui abondent de tous les côtés. Non. Il faut se préparer en contrôlant nos émotions. Les émotions négatives nous font devenir menteurs. Et le mensonge est une fausse connexion avec le Père. Le mensonge est une mauvaise connexion avec l'être. Parce que le Père, l'être, est vérité. Quel est le contraire de la vérité? Le mensonge, bien sûr. Le mensonge est une mauvaise connexion avec le Père, avec notre intime. Et les mensonges sont les racines des émotions négatives. Bon, on peut aussi mentir volontairement, mais de nombreux mensonges viennent des émotions négatives. Le buveur s'est levé dans notre exemple, il n'étudie pas, il s'est fait punir et il est en colère. Il arrive chez lui et dit à sa famille que c'est la faute du professeur. C'est un mensonge. Faire du faux témoignage, ne pas dire la vérité, sont des mensonges et le mensonge est une mauvaise connexion avec l'être. Le mensonge n'est pas du tout anodin. Oh mon Dieu, aidez-moi. Oh mon Père, viens à mon secours, ne m'abandonne pas. Nous le répétons. Mais comment voulez-vous que nous nous connections au Père si à chaque fois que nous mentons, nous produisons un court-circuit entre le Père et nous? Parce que le Père est vérité. Et si on ne contrôle pas ses émotions négatives, on devient un menteur. Si nous voulons nous préparer pour résister à l'énergie vivifiante des anneaux d'Alcyone, nous devons contrôler des émotions négatives. Quand cela va-t-il se passer? Personne ne le sait. Peut-être demain, ce soir, ou cette nuit, lorsque nous serons en train de dormir. Personne ne le sait. Cela peut survenir dans 10 ans. Nous ne savons pas, mais il faut être prêt. C'est évident, il faut être préparé à recevoir cette énergie. Comment? En contrôlant nos émotions. On nous a renvoyé du travail à cause de mensonges, d'un hein, ou d'une colère. Nous nous retrouvons dans la rue, sans travail. Et de nos jours, il est très difficile de retrouver un travail. Comment pourrions-nous faire pour que ces émotions négatives ne nous fassent pas de mal? Il est très probable que nous soyons en colère contre la personne qui nous a fait perdre notre travail. Comment peut-on réussir? Comment va-t-on réussir à ce que ces émotions négatives ne nous fassent pas de mal? Nous allons vous donner un principe gnostique à ce sujet. C'est un principe extrêmement difficile à appliquer. Mais celui qui réussit à le faire va permettre que les émotions négatives ne lui fassent pas de mal intérieurement, ne lui provoquent pas de maladies. Et c'est vraiment très avantageux. Voilà ce principe. Il faut se mettre du côté de la personne supposée nous avoir provoqué des émotions négatives. Il faut se mettre du côté de la personne supposée nous avoir provoqué des émotions négatives. Vous vous imaginez? Nous avons un conflit dans notre foyer, à cause de notre belle-mère, par exemple. Et pour que cela ne fasse pas de mal à notre corps, ne nous produise pas de mieux de tête, ou n'affecte pas notre cœur, nos reins, ou notre estomac, etc., nous devons dire du bien de notre belle-mère. C'est terrible, mais c'est ainsi. C'est terrible parce que c'est difficile. Mais c'est la réalité. Si on dit du bien de la personne supposée nous avoir fait du mal, les émotions négatives n'affecteront pas notre monde intérieur, notre corps physique. En fait, ce principe n'est qu'à peine un tout petit passe, parce qu'en réalité, les problèmes ne viennent pas de notre belle-mère. Si nous n'avions pas peur, si notre amour dans notre couple était bien solide et plein de confiance, si nous n'avions pas de colère, si nous n'avions pas de game, cette histoire ne nous atteindrait pas du tout. Notre belle-mère ne nous a fait pas de mal. C'est nous-mêmes qui nous sommes fait du mal à nous-mêmes. Il faut aller au fond des choses. Il faut étudier et analyser au fond toutes ces défauts psychologiques qui nous font du mal. Bien sûr, il faudra commencer par dire du bien, autant que possible, de la personne qui est supposée nous avoir causé du tort et d'avoir provoqué une émotion négative en nous. C'est comme cela que nous allons nous préparer à la venue des anneaux énergétiques d'Alcyone. C'est ainsi que nous devons faire et que nous serons prêts à recevoir cette énergie qui approche à pas de géante dans notre système solaire. Ce n'est pas en tournant autour de notre élite et en allumant des petites bougies ou en récitant des prières mécaniquement que l'on se préparera. Ce sera dans le travail intérieur. Ce sera en transformant nos émotions. Ce sera en changeant intérieurement. C'est ainsi que nous serons prêts pour cette énergie et pour n'importe quelle influence qui viendra du cosmos. Bien, mes amis, c'était notre sujet de la conférence d'aujourd'hui. Pour la bibliographie, nous avons la conférence de notre cours de l'antichambre que nous vous invitons à vous inscrire à nos cours par courrier électronique par email. Inscrivez-vous aussi aux nouvelles au rebus pour que vous soyez au courant de tout ce qu'il se passe dans notre institut culturel Quetzalcoatl. Chers amis, merci beaucoup pour nous accompagner. À bientôt.